bonjour à tous. Notre série cette semaine est consacrée à la pauvreté et aux théories économiques qui l'accompagnent, alors que pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'extrême pauvreté va recommencer à augmenter dans le monde. La crise du Covid est venue mettre un coup d'arrêt à des décennies de progrès obtenus de haute lutte. On en parle à partir de demain, mais d'abord comme chaque lundi, laissons-nous porter par le vent de l'actualité qui nous mène aujourd'hui aux côtés des constructeurs automobiles. Le secteur, largement frappé par le ralentissement de l'économie, est sommé d'accélérer sa transition vers la voiture propre. Le virage est serré et pourrait bien laisser des industriels sur le bas-côté. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour examiner les grands défis qui attendent l'industrie automobile, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Bernard Julien, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et ancien directeur du groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Daniel Attias est également avec nous, économiste et professeur à Centrale Supélec. Et enfin Samuel Klebaner, économiste, maître de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors avec la crise du Covid, l'industrie automobile a connu un recul sans précédent, une très forte baisse des commandes. Mais depuis cet été, le rebond du secteur est plus fort que prévu, Bernard Julien. Alors est-ce que Bernard Julien est avec nous? On ne l'entend pas. Daniel Attias, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce passage, à la fois ces difficultés qu'a connu le secteur automobile au printemps, que connaît encore le secteur automobile, mais ce léger mieux depuis cet été?
Oui, c'est vrai. Alors là, on a connu une année absolument épouvantable. C'est l'une des pires années de l'industrie automobile en France, puisque les conséquences du Covid font qu'on estime la chute à 90% environ. Alors c'est un chiffre qui est assez semblable dans les pays européens. Pour nous, ça a été une chute très violente. Alors on a eu un petit mieux au mois de juillet qui a été constaté dans toute l'industrie automobile. On a vu repartir les ventes de quelques pourcents, c'est faible, c'est un frémissement. Alors là, de nouveau, l'automne ne semble pas très prometteur. On a encore des stocks absolument gigantesques, puisqu'ils sont évalués à près de 10 milliards, donc c'est énorme. Et bon... Que faire? Enfin là, je pense qu'on reparlera effectivement du plan de relance qui est mis en place en France et qui permettrait peut-être d'avoir une ouverture, quelque chose qui permette un mieux devant nous.
Une année difficile pour les constructeurs automobiles, mais tout de même un frémissement de reprise depuis cet été, Samuel Klebaner, et notamment du côté des constructeurs allemands, Daimler, Volkswagen et BMW, qui doivent ces bons résultats, relativement bons résultats au troisième trimestre, notamment à leur succès en Chine.
Alors, tout à fait... Ce rebond cet été, il faut aussi bien sûr l'analyser avec les conséquences particulières des canaux de vente. On a quand même une impossibilité de vendre pendant le printemps, qui du coup explique aussi des ventes qui ont été retardées et qui sont apparues cet été. Donc déjà, il faut relativiser sur le fait que cette envolée de l'été n'a pas été très concluante. Et cette année particulière, en 2020, est aussi marquée par les objectifs CO2 qui provoquent des stratégies marketing et de commercialisation des constructeurs qui rendent très difficile la lecture des ventes des véhicules. Ce qui est sûr, c'est que depuis cet été, on observe quand même que la crise n'a pas été si dramatique en termes de ventes, j'entends, et qu'il y a en effet des potentiels, et d'ici peut-être l'année prochaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un marché automobile qui soit toujours présent.
Si la crise n'a pas été aussi dramatique, Bernard Julien, c'est aussi parce qu'il y a eu le chômage partiel, la prolongation du chômage partiel, et aussi les primes à l'achat en France, ce sont des facteurs qui ont joué.
Oui, évidemment, l'automobile est un secteur qui est trop important pour être laissé à l'abandon quand menace des baisses de commandes de l'ordre de 40 points, puisque, en gros, dans l'automobile, quand le PIB baisse d'un point, les commandes ont tendance à baisser de 4, parce que ce sont des achats qu'on peut différer, etc. Donc il y a évidemment une espèce de surréaction de l'automobile aux variations de conjoncture qui impose des réactions des États relativement fortes qu'on a eues, effectivement, et grâce en partie à ce que j'appellerais ces anabolisants commerciaux, quoi. On a des commandes qui se sont assez bien comportées au troisième trimestre par rapport à ce qu'avait été le second, et effectivement, les craintes qu'on pouvait avoir de voir la demande baisser de 25 ou 40 points, on a été plutôt dans la fourchette haute, si on veut, quoi.
Mais le reconfinement...
À cela, le fait que la Chine a repris, comme vous le disiez, et du coup, ceux des constructeurs qui ont une exposition Chine forte s'en tirent quand même mieux, parce que là, le marché s'est retourné plus rapidement et se tient à des niveaux relativement hauts par rapport à 2019.
Le marché du haut de gamme, notamment, qui est reparti en Chine, mais du côté de l'Europe, oui. Le reconfinement de plusieurs pays a provoqué à nouveau une chute de l'activité. Daniel Attias, même si peut-être l'Italie et l'Allemagne arrivent à limiter la casse.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que nos voisins européens s'en tirent un tout petit peu mieux dans la période, mais vous avez raison de souligner que le reconfinement retarde les possibilités, les actes d'achat, c'est évident. Et nous, on est un peu dans l'attentisme pour l'instant, avec en plus tous les projets en cours qui sont complexes, qui sont difficiles à mettre en œuvre rapidement. D'autres plateformes, d'autres choix stratégiques comme l'électrique, l'hybride ou d'autres choses dont on va sûrement parler.
Bien sûr, on va en parler
aujourd'hui, tout simplement, on est quand même dans une mise en péril de 3600 emplois en France. Ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a cité dans l'une de ses allocutions. C'est pas rien. Alors, on pense effectivement que s'il y a des aides de l'État, ça pourrait largement pallier cette difficulté.
Des difficultés liées au reconfinement, donc en particulier le mois dernier, donc du côté de l'Espagne, de la France, de la Pologne et de la Belgique, mais du côté des constructeurs, Samuel Klebaner, Renault et Fiat Chrysler s'en sortent un peu mieux en octobre.
Alors écoutez, j'ai pas vraiment... c'est assez difficile d'analyser pourquoi tel constructeur s'en sort un peu mieux que les autres. On est quand même dans une situation très fragile pour tous les constructeurs. Donc c'est assez difficile de dire et d'affirmer qu'un des constructeurs s'en sort et est grand gagnant du reconfinement ou autre. On est quand même sur des situations qui sont assez dramatiques pour la plupart des constructeurs partout en Europe. Parce que l'année 2020 était de toute façon l'année de tous les dangers pour les constructeurs automobiles et évidemment les reconfinements a aggravé la situation pour tous.
Et l'un des problèmes que cela pose, Bernard Gillien, c'est celle des stocks qui sont coûteux à gérer puisque la baisse de la demande a des répercussions sur l'ensemble de la filière.
Oui, alors on a effectivement une filière entière, commerce y compris, qui souffre. Donc il y a eu effectivement des appels à ce que les concessions restent ouvertes pour que les usines puissent continuer de tourner. On s'aperçoit que même quand on les laisse ouvertes, ça sert pas à grand chose parce que la chute des commandes est là. Donc effectivement, le reconfinement pour les pays qui ont eu des reconfinements un peu durs, comme c'est le cas chez nous, comme c'est le cas en Espagne, induisent des baisses de commandes qui effectivement viennent démentir les assez bons résultats qu'on a eus au troisième trimestre. Donc en gros, jusqu'en octobre ça va, novembre on va être à moins 70 pratiquement, et du coup on s'achemine probablement vers des fermetures de sites industriels sur le dernier mois de l'année, ce qui, étant donné la nature des comptes d'un certain nombre de sous-traitants, va faire passer le boulet de la faillite très près de beaucoup d'entre eux, quoi.
Alors justement, effectivement, Renault a annoncé un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans, un plan qui prévoit 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France. Un plan d'économie donc lourd de conséquences sociales.
Nous allons nous battre des semaines, des mois, des années s'il le faut. Mais cette entreprise ne va pas mourir.
Un sentiment d'injustice, tout simplement, parce que on est une usine performante, qui est reconnue par le groupe Renault. Beaucoup d'autres sites viennent nous voir, viennent copier nos méthodes de travail.
On ne s'y attendait pas du tout. On fait tout ce qu'on peut et là Renault veut nous lâcher.
On ne s'attendait pas à ça. C'est dur, c'est très dur.
Je suis chez Nissan depuis 16 ans. Et en ce moment, l'avenir est un peu compliqué, car avec le Covid-19, la situation se dégrade. On ne peut pas trouver de travail, et dans d'autres entreprises, il y a aussi de nombreux licenciements. C'est un projet qui remonte à plusieurs années. Ils nous ont laissé mourir. Et ce n'est pas que cette usine ne soit pas rentable. Aucune usine n'est rentable si elle n'a pas de volume de production. Et ici, ils nous laissent mourir.
Voilà des témoignages rassemblés par notre réalisatrice Anne de Pelchin. Il risque d'y avoir un coup social très dur, Bernard Julien, de cette nouvelle stratégie de l'alliance Renault-Nissan qui désormais met fin à la course au volume chère à son ancien patron Carlos Ghosn.
Oui, alors il faut bien souligner que c'est antérieur hein, à la crise du Covid qui sans avoir bon dos, si vous voulez, est quand même un élément qui permet de faire accepter ce qui était moins acceptable sans quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une stratégie qui est, disons, calquée sur celle de PSA qui consiste à considérer que, comme disent les gestionnaires, il faut abaisser le point mort. Et abaisser le point mort, c'est une expression un peu neutre, mais qui, dans les faits, veut dire quand même fermer des usines et se satisfaire de volumes moindres, ce qui, évidemment, a des impacts très lourds sur l'emploi, parce que le pari est fait que, un, la demande automobile européenne va rester à des niveaux qui seront plutôt inférieurs à ceux qu'on avait connus en 2018-2019, et deux, Renault fait le pari que ni eux, ni Dacia, ni Nissan n'arriveront à aller très au-delà des parts de marché qui sont les leurs aujourd'hui. Et du coup, effectivement, ils recalculent leurs équations pour arriver à ce que la profitabilité puisse être là, avec ces niveaux de demande normaux, entre guillemets, hein, et évidemment, ça génère ce que vous avez eu dans les reportages, c'est-à-dire la fermeture de Barcelone, le renoncement à l'assemblage à Flins, hein, et puis un certain nombre de menaces qui sont aujourd'hui éloignées sur Maubeuge, par exemple. Hein, mais c'est vrai que on est, de fait, dans le groupe Renault, mais pas seulement, dans un réaménagement, je dirais, des appareils industriels, qui a des conséquences sociales lourdes, et cela, c'est avant même que la vague de l'électrification et ses effets sur l'emploi ne se soit fait sentir clairement.
Il paraît bien loin, Daniel Attias, ce temps où Renault, Nissan, Mitsubishi prenaient la première place du podium en 2017 devant Toyota et Volkswagen.
Oui, tout à fait. Vous avez absolument raison. On a l'impression que c'était une autre époque. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Bernard vient de dire, c'est que on paye très cher le prix de nos délocalisations pendant plus de 10 ans. Notre secteur automobile a baissé quand même de 30% en termes d'emploi. 36% pardon, en termes d'emploi en 10 ans. C'est énorme, c'est énorme. Moi, j'ai été très frappée cette année. Je vous donne un point qui peut-être fait basculer notre histoire automobile, hein, puisqu'on le présente comme ça. C'est la première fois en France qu'aucune petite citadine, hein, ce qu'on appelle les petites citadines, les Clio, C3, enfin tout ce qu'on appelle le segment B en automobile, aucune citadine n'a été assemblée en France. C'est la première fois de notre histoire. Donc c'est vrai qu'on va parler de la crise Covid, etc., mais il y a une antériorité à notre histoire automobile de l'industrie française qu'on paye quand même très cher, parce que notre délocalisation ailleurs, hein, au Maroc, en Slovaquie, en Turquie, enfin on connaît, malheureusement, hein, ça a été une baisse des emplois et puis une baisse de l'activité globale. Hein. Donc tout ça, c'est à reconstruire.
Hein. Samuel Klebaner, sur ce changement de stratégie de Renault et peut-être aussi sur cette décennie de délocalisation dont parle Daniel Attias.
Évidemment, je pense que il faut remonter quand même hein, à la crise de 2008. Hein. C'est pas la première fois que Renault met en place un plan d'économie. Il y a eu les premiers accords de compétitivité déjà en 2013. On est quand même sur une dynamique voilà qui n'est vraiment pas nouvelle, où on va, comme le dit Bernard, on va abaisser le point mort, c'est-à-dire on va à la fois réduire les volumes de production là où c'est pas rentable et essayer de maximiser la production là où ça l'est. Et évidemment, l'équation est très défavorable aux sites de production en France. Mais ce n'est pas une fatalité du tout, puisque pour que retrouver une certaine compétitivité, il faudrait qu'il y ait quand même des investissements qui soient physiques dans les usines pour les moderniser. Et ce que voilà, la France a, les sites de France ont quand même beaucoup souffert d'un défaut d'investissement de la part des deux constructeurs qui ont préféré, en effet, ouvrir et maximiser la production dans des pays périphériques, comme la Turquie ou le Maghreb.
Si on entre un petit peu dans le détail, il y a 2500 suppressions de postes de cadres et d'ingénieurs qui est prévu dans ce plan d'économie de Renault et 2100 suppressions d'emplois prévues dans les usines françaises. L'accord sur les suppressions de postes de cadres et d'ingénieurs a été voté par les syndicats la semaine dernière. Ce qui a été prévu, ce sont des départs naturels, des mesures de retraite anticipées et un plan de rupture conventionnelle collective. Mais pour ce qui est des suppressions d'emplois dans les usines françaises, elles doivent être encore négociées. Les discussions s'annoncent plus tendues, Bernard Julien.
Oui, alors le plan concernant la France est effectivement essentiellement centré sur la partie tertiaire, hein, ce qui d'ailleurs nous rappelle que si les délocalisations avaient jusqu'ici concerné essentiellement les fabrications, elles sont en train d'affecter assez lourdement, selon deux dynamiques qui sont celles de l'externalisation et celles des délocalisations, les fonctions de conception, entre autres. Hein. Ça veut dire que là où Guyancourt travaillait, on va avoir des sites brésiliens, roumains ou indiens qui vont faire une partie du boulot, et ça fait partie du plan d'économie, ça fait partie des 2000 emplois qui vont être gagnés là, si vous voulez. Hein, et par conséquent, on a une espèce d'extension du domaine de la lutte pour l'abaissement des coûts, les délocalisations, des usines vers la conception. Quoi. Donc ça, c'est un premier mouvement qui est évidemment majeur. Ensuite, effectivement, l'ajustement sur les usines ne se fait pas immédiatement parce que la fin de l'assemblage à Flins est prévue sur 2023 et que pour l'instant, il n'y a plus grand-chose à gratter, si je puis dire, puisque l'essentiel a déjà eu lieu, quoi, d'une certaine manière. Donc sur les usines, il est probable qu'il n'y ait pas de plan très très vigoureux, puisque de surcroît, il y a une partie de l'emploi qui va être supprimée, qui est plutôt des emplois d'intérimaires. Donc c'est pas au niveau des usines, parce que la dynamique de délocalisation, elle a déjà produit ses effets. Hein, et la dynamique de délocalisation, c'est même pas les 10 dernières années, ce sont plutôt les 20 dernières années, hein, avec effectivement ce que disait Daniel Attias, c'est-à-dire des véhicules du segment A et B, hein, qui étaient autrefois qui faisait autrefois les beaux jours des sites français, hein, qui ont conduit à ce que Aulnay ferme, à ce que Flins ne soit plus grand-chose, à ce que Poissy ne soit plus non plus grand-chose. Hein, et ça, si vous voulez, ce sont des dynamiques qui sont actées depuis pas loin de 15 ans maintenant.
Alors on voit bien que le coronavirus est venu simplement peut-être confirmer des stratégies qui avaient été élaborées auparavant. On peut citer PSA qui a fait le choix de l'alliance avec Fiat Chrysler. Les actionnaires des deux constructeurs devraient se réunir le 4 janvier afin d'approuver la fusion qui donnera naissance au groupe Stellantis. Daniel Attias, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'objectif de ce mariage?
Écoutez, je pense que c'est pas... Enfin, PSA a toujours tenté. Moi, j'ai été directrice d'une chaire de recherche prospective chez PSA pendant plus de 10 ans. La stratégie de PSA, ça a toujours été d'être dans les alliances, les fusions, pour essayer de mettre en commun des plateformes, des sites de production et aussi de la conception, hein, et de la R&D. Alors, il n'y a pas toujours eu des alliances très heureuses. Hein. Il y a eu beaucoup de revirements, malheureusement, des choses qui n'ont pas abouti. Là, on peut imaginer qu'avec Fiat, ce soit une bonne chose. Ça consoliderait notre entreprise française qui a besoin de ça, qui est quand même dans des stratégies qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait définies. Enfin, moi, j'aurais du mal à expliquer exactement quel est l'objectif de PSA aujourd'hui, qui a été pendant un certain temps tourné vers l'électrique, vers l'hybride, des revenus dessus, etc. Donc c'est pas forcément très clair. Ceci dit, moi je crois aux alliances parce que je crois que ça consolide quand même globalement le secteur et l'industrie en elle-même.
Samuel Klebaner, cette fusion, c'est une bonne chose pour PSA?
Alors il faut aussi bien avoir à l'esprit que PSA reste un petit constructeur, hein, sur la scène internationale. C'est un constructeur qui s'était très peu internationalisé et on n'est pas du tout sur les mêmes échelles que l'alliance Renault-Nissan. Donc la fusion avec FCA, elle a cet objectif évidemment de propulser PSA sur la scène internationale. Après, il va y avoir évidemment des arbitrages entre les sites italiens, les sites français, les sites américains aussi, avec ces différentes marques, qui ne présage pas forcément d'un développement industriel en France. Tout va dépendre évidemment de l'équilibre de pouvoir et des stratégies qui vont être développées dans cette nouvelle entreprise. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des doublons qui vont sauter Et ces doublons vont sans doute se trouver en France aussi.
Mais qu'est-ce que cela nous dit, cette concentration du secteur? Qu'est-ce que cela nous dit de cette nécessité aujourd'hui pour les constructeurs automobiles de faire des économies d'échelle, nécessité qui les amène à se rassembler, Bernard Julien?
En gros, c'est vrai que les mutations qui se présentent, et on peut ne parler pour l'instant que de la partie modification des motorisations, quoi. Ça induit effectivement des obligations de renouveler ces gammes pour les électrifier, ça induit l'obligation d'être présent sur les turbines, de faire quelque chose du côté des batteries, d'acquérir éventuellement des compétences en électrochimie qui étaient très loin des savoir-faire des constructeurs, et tout ceci met la barre relativement haut en termes d'investissement. Et on a des entreprises qui sont quand même très désireuses d'afficher des résultats financiers flatteurs. Et pour cela, évidemment, la stratégie d'alliance entre PSA et FCA, elle permet finalement de rester avec des ratios recherche-développement sur chiffre d'affaires qui soient à peu près constants, tout en travaillant sur des sommes plus élevées, quoi. Donc je ne pense pas que, contrairement à ce qu'on a pu dire ou écrire, qu'il s'agisse de lâcher les vannes en matière de R&D et de mettre autant d'argent dans l'affaire que Volkswagen ou Toyota ne peuvent mettre, on est dans une philosophie qu'avait très bien exprimée Marchionnet et à laquelle semble adhérer Tavares, qui consiste à dire que on doit pouvoir faire plus avec moins, quoi, quelque chose comme ça. Donc il y a alors évidemment ça veut dire que, comme le disait Samuel Klebaner, on va être dans une volonté d'afficher ce qu'on appelle avec beaucoup de délicatesse des synergies, et on annonce des synergies entre 3 milliards et demi par an et 5 milliards par an. Évidemment, ce qu'on appelle synergies, ce sont des économies, économies qui impliqueront de supprimer les doublons, c'est comme ça qu'on dégagera les synergies. Donc évidemment, pour les gens qui sont soit dans certaines usines, soit dans certains bureaux d'études ou centres de recherche, ça veut dire que il faut s'attendre à ce que une partie de leur activité passe soit à l'AS, soit à la sous-traitance. Quand Peugeot a racheté Opel, on a eu des équipes de R&D allemandes qui ont été revendues à des cabinets de consulting ou d'études. Donc il y a effectivement dans l'année à venir ou les deux années à venir un certain nombre d'interrogations à ce niveau-là qui seront levées et qui nous diront où ça va se produire.
Et alors, vous l'avez dit, les investissements pour passer à la voiture électrique sont absolument colossaux et certains constructeurs ont déjà pris de l'avance. On en parle dans un instant.
Bless my zoom zoom zen. Bless my zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting ting ting. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting ting ting. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original Ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve, c'est move up, girl, want ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Ouais.
Ma Benz de Brigitte sur France Culture. D'entendez-vous l'écho. Bernard Julien, Daniel Attias et Samuel Klebaner sont toujours avec nous pour parler des grands défis qui attendent les industriels et les constructeurs automobiles. Alors la crise du coronavirus va-t-elle ralentir la transition vers la voiture électrique ou au contraire l'accélérer? Ce que l'on observe du côté des gouvernements, c'est peut-être plutôt une accélération, Bernard Julien, en particulier du côté du Royaume-Uni, puisque Boris Johnson a décidé d'interdire les ventes de voitures et de camionnettes neuves à essence et au diesel dès 2030, soit 10 ans plus tôt que prévu.
Oui, donc il est tout à fait juste que l'épisode auquel on se préparait déjà avant même la Covid, qui était un épisode d'accélération des ventes de véhicules dits propres, le débat reste ouvert pour savoir s'ils le sont vraiment, mais de véhicules hybrides rechargeables, hybrides et puis surtout électriques, c'est un phénomène qu'aura accéléré la Covid, en partie parce que les aides d'État ont été alourdies et puis que le mouvement s'est fait assez clairement vers cela, quoi. Alors du coup, c'est vrai que il y avait des annonces du type de celles que vient de faire Boris Johnson qui paraissaient un peu improbables il y a encore un an. Et puis tout le monde est en train de revoir ces équations. Et effectivement, quand on dit zéro véhicule thermique en 2050, c'est vrai qu'il faut arrêter d'en vendre en 2030, quoi, pratiquement. Mmh. Et donc il va y avoir effectivement des attitudes de ce type-là. Alors comme on le voit avec le cas anglais, ça va d'abord être vrai des pays qui n'ont pas ou plus de constructeurs, comme c'est le cas de l'Angleterre aujourd'hui. Ça va probablement être vrai en Irlande ou dans des pays de ce type-là, c'est déjà le cas du reste. Par contre, pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Italie, ça tardera un peu, et en même temps, on sent bien, Daniel Attias le disait un petit peu tout à l'heure au sujet de PSA, que même ceux qui étaient très rétifs à embrasser cette dynamique-là, sont en train de réviser leur calcul. Typiquement, Tavares avait dit « Moi, je ferai en électrique exactement ce qu'on me demande pour être au rendez-vous de 2021, mais sûrement pas plus ». Et puis, il y a quelques semaines, il a déclaré que finalement, c'était suffisamment profitable pour qu'il y aille aussi. Quoi. Évidemment, si c'est profitable, c'est en partie parce qu'il y a des primes telles que ça le devient. Quoi.
On va parler des constructeurs, mais encore un mot sur les gouvernements, puisque de nombreux pays ont décidé d'interdire les ventes de voitures, de camionnettes neuves à essence et au diesel. La Norvège, c'est le pays qui a choisi de mettre en place cette interdiction le plus tôt, puisque ce sera dès 2025. Du côté de la France, c'est 2040, mais qu'est-ce que ça nous dit, Daniel Attias, de cette pression peut-être de la société civile en faveur d'une plus grande attention accordée à la qualité environnementale des voitures?
Moi, je pense que c'est un sujet complètement brûlant et qui à la fois prend deux aspects. Un aspect immédiat où, de toute manière, les constructeurs sont aujourd'hui, en particulier en France, sous la contrainte, ils n'ont pas le choix. En plus, je pense qu'ils sont piégés parce que, quelque part, le plan de relance de 8 milliards d'euros qui est en cours, qui a été donc acté cet été, va les contraindre à se lancer dans cette voie-là. Donc, tout ce qu'on appelle les véhicules propres. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron rappelait que notre objectif, ce serait qu'en France, on devienne la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Avec un objectif fixé sur 5 ans. Alors, est-ce que les constructeurs pourront suivre? Je ne sais pas. Qui est en gros d'un million de véhicules produits, de véhicules électriques, hybrides, rechargeables, hybrides, etc. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dirais qu'en face, on a quand même une résistance incroyable des grandes métropoles. Parce que moi, quand je vois les plans des autorités organisatrices des transports dans les grandes métropoles européennes et du monde, mais on va parler surtout de l'Europe, à Londres, à Paris, à Genève, on est quoi? On est en train de complètement réduire toute circulation, stationnement, possibilité d'avoir des voitures même propres. Je veux dire, les grands centres urbains aujourd'hui ne sont plus prêts du tout à accepter des véhicules. Et alors, le cas le plus intéressant, c'est quand même celui de Singapour, où même les véhicules électriques ne sont pas les bienvenus dans le centre urbain. Tesla est taxé quand même à 100% en entrant, plus la prime de licence qu'on connaît, qui est pas loin de 30 000 euros pour circuler dans la ville, dans un centre urbain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi la question des usagers, de ceux qui vont acheter ces voitures. Qui seront-ils si demain, dans les centres urbains, on leur dit « mais de toute manière, l'espace n'est plus fait pour la voiture, elle est faite pour d'autres formes de mobilité, collectives ou autres ». Et ça, je pense que c'est une vraie question.
Il y a un risque que les voitures électriques ne trouvent pas de clients, Samuel Klebaner ?
Non.
Alors, Daniel Attias a tout à fait raison pour dire que on est dans un climat politique où on a des annonces et des changements de politique qui sont assez réguliers. Quand j'ai dit que 2020 était un peu l'année de tous les dangers pour les constructeurs, c'était surtout en référence aux normes de CO2, aux objectifs CO2 que les constructeurs devaient se doivent de respecter cette année. Il y a eu, il y a 5 ans, le Dieselgate qui a fortement contribué au désengagement des constructeurs dans la technologie diesel, du moins en Europe. Donc, on se trouve en effet sur une tendance où le véhicule thermique n'a a priori pas d'objectif à court ou moyen terme. Après, il faut voir évidemment que, étant donné qu'on a plusieurs échelles de pouvoir, Daniel Attias par exemple a cité les grandes métropoles, vous avez cité les gouvernements, il y a la Commission européenne aussi derrière, le problème c'est qu'en cette période, on ne voit pas forcément quel est le cap qui est donné à l'industrie automobile. Et ce cap-là, il doit être nécessairement réfléchi alors au niveau européen ou au niveau de l'État, mais en tout cas dans un cadre de politique de transport assez général qui puisse donner une place aux véhicules automobiles, qu'ils soient partagés, connectés, ce que vous voulez, mais en tout cas donner aux constructeurs la ligne directrice pour dire quel va être le véhicule du futur. Et là, il y a eu, je pense, une prise de conscience très forte sur l'électrique. Il faudrait évidemment avoir des objectifs encore plus clairs sur la production de véhicules électriques. Quel type de véhicule électrique? Est-ce qu'on veut des véhicules à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire en gros des Tesla, ou est-ce qu'on veut au contraire des véhicules urbains, c'est-à-dire du segment B qui a été complètement délocalisé en France?
Alors je voudrais vous faire entendre une archive, puisque en 1942 déjà, les voitures trop anciennes étaient envoyées à la casse.
En route vers la fonte. Depuis plusieurs mois, en effet, il est interdit aux voitures âgées de plus de 17 ans de circuler. Toute l'industrie française est intéressée à cette œuvre de récupération, car le ferraillage procure du travail à un nombreux personnel en chômage et permet d'autre part à certaines usines de conserver leur potentiel d'activité. Le comité d'organisation de l'industrie et du commerce de l'automobile achète les voitures antérieures à 1925. Un capital mort deviendra ainsi un capital utilisable.
Voilà, une archive INA de 1942 qui fait écho à cette interdiction de vente des voitures à moteur thermique dans certains pays, et puis à l'interdiction de circulation dans certaines métropoles comme à Paris. En 2024, les moteurs diesel ne pourront plus rouler dans la capitale. Bernard Julien, c'est aussi du travail en perspective pour les grandes usines de recyclage?
Oui, alors il y aura une problématique de recyclage, mais pour l'instant, on l'a bien vu avec les épisodes du type gilet jaune, etc., on a quand même un trou, un gap entre ce qu'on veut bien faire pour les voitures neuves et puis ce qu'on peut faire vis-à-vis de la très grande majorité des ménages qui roulent avec des véhicules achetés d'occasion, de plus en plus anciens. Moi, j'ai procédé à un recalcul du parc français cette année, et on n'est pas à 34 millions, mais à 40 millions de voitures, et elles n'ont pas 9 ans d'âge moyen, mais plutôt 11 ans d'âge moyen. Donc ça veut dire que entre ce que l'on oblige les constructeurs à mettre en marché et ce que seront les véhicules qu'on verra rouler sur nos routes d'ici 15 à 20 ans, il y a une problématique qui n'est pas posée d'une certaine manière. Ce qui veut dire que on n'est pas du tout sûr que, ayant mis les constructeurs sous ces contraintes-là, on ait des réductions très significatives d'émissions dans les 15 ans à venir. Et ça, c'est un problème déjà chez nous, mais imaginez ce que ça peut vouloir dire en Roumanie ou en Pologne, quoi. Donc ça veut dire que, pour l'instant, on n'a pas de connexion entre la politique industrielle ou la politique de production de normes pour les immatriculations de voitures et ce qui pourrait en résulter en termes d'émissions globalement sur le territoire européen. Et c'est assez homologue, au fond, à cette espèce de négligence dans laquelle est la question industrielle sur le même volet, quoi. C'est-à-dire que autant en Chine, vous avez une politique de réforme des véhicules qu'on a le droit de mettre en marché qui est complètement conséquente, avec un plan industriel, avec une remontée dans la filière qui est contrôlée d'une certaine manière. autant, je dirais, en Europe, on a mis la charrue de l'électrique avant les bœufs de la filière, quoi, de telle sorte que aujourd'hui, on est face à une espèce d'abîme industriel en termes de dégâts sociaux, en termes de re-répartition de la valeur, hein, en termes de capacité de l'Europe à être un peu autonome par rapport à la Chine ou autre. Hein, donc on a effectivement une assez utile un assez utile appel à verdir tout cela, mais l'essentiel du travail pour que ce soit producteur d'effets bénéfiques sur l'environnement d'une part, et puis gérable socialement ou industriellement d'autre part, eh bien ça c'est devant nous d'une certaine manière.
En l'occurrence, la question de l'effet effectivement des mesures environnementales se pose par exemple avec le débat qui a porté ces dernières semaines en France sur l'instauration d'une taxe sur les véhicules d'un poids supérieur à 1,4 tonnes. Ça c'est ce qui était demandé par la Convention citoyenne pour le climat, mais le malus visera finalement les SUV de plus de 1,8 tonnes. Alors du côté de la droite, on dénonce une taxe punitive. Les écologistes, eux, estiment que la mesure est quasiment inutile. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Attias?
Alors, je pense qu'on a alors là vraiment les formes d'un débat classique en France sur les pour et contre. Et finalement, toute la question de la taxation, c'est un peu les mesures punitives. C'est-à-dire que, bon, pour moi, c'est des mesures temporaires, de courte durée, qui règlent pas du tout les questions de fond. D'ailleurs, en fait, c'est là que notre débat s'élargit, parce qu'on est en train de parler de la voiture du futur. Et finalement, je serais tenté de dire que derrière tout ça, puisqu'on vient d'introduire la question des voitures plus lourdes, etc., je pense qu'on devrait en fait déplacer la question sur le véhicule du futur. Alors, au sens très anglo-saxon de « vehicle », c'est-à-dire toutes les formes de mobilité, parce qu'aujourd'hui, il y a une question majeure dans les villes. C'est toute la question du dernier kilomètre, de la logistique. Les véhicules utilitaires, demain, seront-ils des véhicules propres ou pas? Ce sera nécessaire obligatoirement, mais ça suppose aussi pour les constructeurs de s'engager sur cette voie, qui est une voie quand même aussi pas simple à mettre en œuvre, faire que demain, tous nos véhicules utilitaires, tous ces véhicules-là, soient aussi des véhicules propres. Voilà, c'est le sens de ma réflexion d'aujourd'hui.
Samuel Klebaner, effectivement, ça élargit notre débat plus largement aux véhicules du futur, mais ça illustre tout de même cette difficulté à estimer l'impact véritablement environnemental et social de ces nouveaux véhicules. Si on revient aux véhicules électriques, par exemple, on a par exemple des doutes sur cet impact social et environnemental que représente l'extraction de cobalt.
Oui, en fait, juste sur ce malus au poids, ça illustre aussi quand même la difficulté qu'il y a en France de prendre une décision qui serait capable d'être maintenue sur le long terme et de donner véritablement un cap et une stratégie pour les constructeurs. Ce malus à 1,8 tonnes, évidemment, n'aura pas d'effet très important, ça va impacter qu'une poignée de modèles vendus en France.
Et ce qui était intéressant, d'où l'idée que certains parlent de protectionnisme, puisque ça ne concernera quasiment pas les constructeurs français.
Évidemment, donc en plus de ça, il y a un risque de protectionnisme que les voisins allemands ont bien fait de soulever. Mais les constructeurs automobiles s'étaient insurgés contre cette mesure, puisque les 1,4 tonnes, puisque ça allait toucher 70% de la production française, selon eux. Mais là encore, il faut voir que si ça affecte 70% de la production française, c'est parce qu'on a délocalisé tous les petits véhicules, et ces petits véhicules sont pourtant essentiels dans le paysage urbain, puisqu'ils consomment moins, puisqu'ils prennent moins de place. On peut avoir des politiques urbaines qui seront adaptées à ces véhicules, et non pas aux gros véhicules SUV, 4x4 et compagnie. Donc là, ça pose en effet la question de est-ce qu'on a les produits suffisants pour répondre à un besoin de transport. Et on a tout à fait raison d'intégrer ces véhicules dans une politique de transport plus large, puisque la politique de transport, elle doit être gérée soit au niveau local, soit au niveau national, selon les besoins, etc. Mais elle doit en effet inclure tous les véhicules. Et c'est ça qui va donner le cadre pour le véhicule du futur. Alors, l'État peut se tromper, mais l'État, il est garant du temps long, il peut tout à fait prendre une mesure qui doit tenir sur le long terme.
Quand vous dites, Bernard Julien, qu'on a mis la charrue avant les bœufs en misant comme ça sur l'électrification en Europe, il faut peut-être aussi souligner qu'il ne suffit évidemment pas de construire des véhicules électriques, il faut aussi équiper les territoires de centaines de milliers de bornes de recharge qui nécessitent des investissements considérables.
Oui, alors c'est vrai que, si vous voulez, dans le lobbying constructeur pour ou contre l'électrique, mais plutôt contre initialement, hein, il y avait cette idée que ni le public ni les infrastructures n'étaient prêtes et que ça allait être une catastrophe parce qu'il n'y aurait pas de bornes, quoi. En fait, on s'aperçoit quand même que 90% des recharges se font au domicile ou au travail et que le besoin à couvrir avec les bornes est un besoin qui finalement est assez marginal, quoi. Hein, et quand on regarde l'usage qui est fait des 30 ou 40 000 bornes qu'on a aujourd'hui en France, on est sur des utilisations moyennes annuelles, hein, qui sont en dessous de 100, quoi. Donc ça veut dire que pour l'instant, si vous voulez, dans le débat de la poule et de l'œuf, hein, puisque ça a été décrit souvent comme ça, en se disant, ben, on n'aura pas de bornes s'il n'y a pas de voiture, et on n'aura pas de voiture s'il n'y a pas de bornes. Donc là, la puissance publique chargée de la poule, si vous voulez, hein, en a mis partout, et puis elle a attendu les œufs très longtemps, quoi. Hein, tant et si bien qu'aujourd'hui, je ne crois pas, pour ma part, que les bornes soient un vrai problème, autrement que dans la rhétorique constructeur, d'une certaine manière. Et si c'est un problème, eh bien, c'est aussi à eux, comme ils le font sur les autoroutes, de se débrouiller pour que, en le vendant ou en l'offrant, cette recharge soit facilitée. Hein, au fond, il y a là une manière de se repasser le bébé, qui était jusqu'alors une manière pour les constructeurs de dire « on ne peut pas y arriver ». Ces constructeurs qui passent leur vie à dire que la taxation qui pèse sur l'automobile est honteuse, que les charges sociales le sont trop, etc., il faudrait qu'ils soient un peu conséquents et qu'ils ne demandent pas à la puissance publique qui déjà verse 6 à 10 000 euros par véhicule électrique immatriculé d'être aussi financeuse de la totalité de ces bornes de recharge.
Mais comme vous le dites,
ils ne sont même pas sûrs eux-mêmes que les clients ont besoin.
Mais comme vous le dites, Bernard Julien, le discours a changé. Vous parliez tout à l'heure du patron de PSA qui avait changé son discours, mais aussi du côté de Volkswagen, ce qu'on a pu constater, c'est une véritable conversion à la voiture électrique, puisque le groupe allemand a annoncé des investissements colossaux. On peut parler vraiment d'un revirement chez Volkswagen.
Oui, enfin moi effectivement je l'analyse assez simplement, hein. On est en 2015. Il y a les accords de Paris, il y a les Chinois qui décident de faire Made in China 2025, hein, et d'imposer l'électrique, et il y a Volkswagen qui vient d'avoir des soucis majeurs avec le Volkswagen Gate. Et Volkswagen, qui jusqu'ici était très rétif à aller vers l'électrique, fait sa conversion entre 2015 et 2017 en se disant « la seule manière pour moi de rester un constructeur global qui pourra faire la même chose en Chine et en Europe et qui résoudra ce problème lié au Dieselgate, c'est de devenir le champion du monde de l'électrique. Hein, » Et effectivement, c'est Volkswagen qui a déclenché le mouvement européen, c'est celui dans lequel on est aujourd'hui, ce qui veut dire aussi quand même que les ambitions d'Emmanuel Macron exprimées le 26 mai dernier, ce sont des ambitions qui, au regard de ce qui est en train de se produire, paraissent un peu déphasées par rapport à une réalité.
Donc comme pour l'hydrogène, on est un petit peu en retard par rapport à l'Allemagne.
Oui, à l'évidence, hein, et PSA est largement en retard par rapport à Volkswagen. Quant à Renault-Nissan, qui était autrefois un peu en avance, 2 années de déshérence à la tête de l'Alliance font que l'avance, elle a été en large partie perdue par la crise de gouvernance qu'a subi Renault et qu'a subi Nissan.
Et puis il y a aussi la question des voitures hybrides et des hybrides rechargeables sur lesquels les Français n'ont pas encore tellement investi, Daniel Attias. Alors peut-être vous pouvez nous rappeler rapidement ce que ce sont ces voitures hybrides et hybrides rechargeables.
Oui, alors en fait c'est une... Ces deux moteurs, hein, électrique et thermique pour l'hybride, qui peuvent se mettre en synergie et permettre un relais, hein, pour la circulation du véhicule. Alors là, évidemment, les premiers mondiaux, on les connaît tous, c'est bien sûr les Japonais, et les Coréens aussi sont fortement placés. Alors nous, on est un peu en retard, hein. Là, on voudrait pas être négatif, mais bon, on a pris le train en retard. Sur l'électrique, on l'a pris, sur l'hybride aussi, l'hybride rechargeable aussi, hein, puisque là, on est avec un moteur électrique qui permet effectivement que la combustion se fasse. Et puis, il y a une autre question qui est posée aujourd'hui et qui nous interroge. C'est le plan mis en place par le METI, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ce fameux ministère de l'économie, trade and industry au Japon. qui a mis le focus depuis l'année 2020 avec un plan très ambitieux sur l'hydrogène. Mmh. Et là, pour le coup aussi, là, on risque de prendre un peu en route, hein, parce qu'on a plein d'initiatives en France, hein. Moi, je suis dans une région, la région Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir une usine qui est en cours, là, qui s'est ouverte et qui va évidemment produire des piles à combustion et qui va nous permettre de gagner, hein, d'aller très vite, hein, puisqu'on souhaitait faire même de cette région, la métropole de Lyon, le centre, hein, de production hydrogène européen. Donc peut-être, je pense que même c'est jouable. Mais vous voyez que là, il va falloir aller vite, quoi. Je veux dire, la course, elle est de plus en plus rapide pour aller vers ces véhicules propres.
Samuel Klebaner, la France commence à accumuler des retards sur les hybrides, l'hydrogène, mais aussi l'électrique, alors même que Renault avait été plutôt leader dans ce domaine de l'électrique.
Oui, tout à fait. Il y a une phase, on va dire, d'exploration des technologies dans lesquelles les Français ont pris leur part. Alors évidemment, avec des retards qui s'étaient déjà accumulés face aux constructeurs japonais, notamment, comme ça a été cité. Mais ça, cette phase d'exploration des différentes technologies, maintenant, il est révolu. Maintenant, il faut investir, il faut industrialiser la production. Et là où la France a en effet, on va dire, beaucoup de difficultés, c'est que la chaîne de sous-traitance, qui est du coup en pleine recomposition, puisque pour les véhicules électriques, on est plutôt sur des technologies d'électronique, donc sur une autre chaîne de valeur que la chaîne traditionnelle de fonderie et de sidérurgie. Hein, on est plus sur les métaux en tant que tels, on est plus maintenant sur l'électronique. Et cette chaîne-là, en France, elle a un retard monumental, colossal, évidemment, par rapport aux industries asiatiques. Donc là, il y a aussi à reconstruire toute une chaîne de valeur sur laquelle le gouvernement essaye de travailler dans les comités stratégiques de filière. Mais est-ce que ce sera suffisant pour reformer une chaîne de valeur sur le sol français ? Ça, c'est, pour l'instant, la question reste ouverte.
Et puis, il y a aussi le fait que la conversion à la voiture électrique risque d'avoir des conséquences sur l'emploi, parce que la construction d'un moteur électrique exige moins de main-d'œuvre, Bernard Julien.
Oui, enfin, évidemment. Hein, alors là, cette fois, ça a été à peu près correctement anticipé, aussi bien en France qu'en Allemagne, hein, puisque tout le monde était un peu effrayé et que, bah, pour une fois, ça n'effrayait pas seulement les ouvriers, mais aussi les sous-traitants, etc. Donc, il a bien fallu tenter d'anticiper ce que cela pourrait représenter. Alors, effectivement, on sait à peu près aujourd'hui que un moteur diesel, quand il consomme 10 emplois, eh bien, un moteur essence, c'est plutôt 6, et un moteur électrique, c'est plutôt 2, quoi. Donc, évidemment, ça veut dire que si on avait l'ambition de transformer la totalité de la production française, qui représente aujourd'hui à peu près 200 000 emplois, en production de véhicules électriques, eh bien, on aurait quand même perdu 30 ou 40 000 emplois, quoi. Donc ça, on le sait à peu près. Ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est si les délocalisations vont se poursuivre ou non, quoi. Et il me semble que l'enjeu, il est là, quoi. Hein, et c'est un petit peu l'interprétation que j'aimerais pouvoir faire des déclarations de Macron, qui consiste à dire, ben, évidemment, si on a les deux vagues qui se conjuguent, les délocalisations et l'électrification, il ne restera plus en France à terme que très peu d'emplois, de l'ordre de 60 000, quoi, si la pente est suivie. Si, à l'inverse, on se sert de l'électrification pour relocaliser une partie des fabrications qui étaient parties au Maroc, qui étaient parties en Turquie, qui étaient parties en Slovaquie, en France, à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus jouable, quoi. Mmh. Et pour cela, on a quand même un certain nombre d'atouts qui sont liés à la capacité à avoir des usines de batteries, à avoir éventuellement une production française de turbines. Il y en a déjà chez Renault à Cléon. Il y a des usines, il y a une espèce de filiale commune entre PSA et Nidec, là, qui est une filiale de Leroy Sommer, qui a des solutions relativement convaincantes. Donc c'est pas injouable, quoi.
Mais comment le gouvernement peut inciter les constructeurs français à maintenir leur production en France ou à relocaliser certaines activités, Bernard Julien?
Je pense qu'ils donnent déjà quand même beaucoup pour que les véhicules électriques soient mis en marché, quoi. Ils le font aujourd'hui pour des véhicules qui, j'allais dire une fois sur deux, je devrais dire deux fois sur trois, ne sont pas assemblés en France. Vous prenez les voitures qui ont été bien vendues ces derniers mois en électrique, c'est de la 2008 Peugeot, fabriquée en Espagne, c'est de la 208 Peugeot fabriquée en Espagne, c'est de la Corsa Opel fabriquée par PSA en Espagne, et c'est maintenant de la Twingo fabriquée par Renault en Slovénie. Donc ça veut dire que dans 60% des cas, lorsque l'on donne 7000 euros au ménage pour immatriculer un véhicule électrique, c'est pour des véhicules importés. Ce qui veut dire, pour l'économiste que je suis, que quand on prétend relancer la croissance, on la tire vers le bas puisqu'on on stimule les importations. Hein, donc ceci, si vous voulez, ça exige de la part de l'État d'aller bien au-delà des déclarations d'intention de Macron le 26 mai pour avoir cette fermeté dont il doit savoir faire preuve comme actionnaire et puis comme subventionneur, j'allais dire, de l'achat de voitures électriques. Hein, c'est vrai d'électriques, d'ailleurs c'est vrai d'hybrides rechargeables assez largement. Hein, là, évidemment, ayant soutenu Renault avec un prêt garanti par l'État, continuons de soutenir le marché assidûment, promettant d'aider PSA et Total à faire ces usines de batterie, ils ont quand même des moyens pour faire en sorte que cette double lame des délocalisations et de l'électrification ne se combine pas, mais qu'il n'y en ait qu'une qui nous affecte, quoi, d'une certaine manière.
Daniel Attias.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec Bernard Julien. Je pense que là, l'État, investissant les milliards qui vont être en jeu quand même, c'est pas rien, quand on est à plus de 8 milliards, plus ce qui s'ajoute, hein, c'est tous les versements de primes, etc., pour l'achat d'un véhicule électrique, hybride, bon, y compris tous les plans d'installation de 100 000 bornes électriques en France pour 2021, bon, c'est quand même énorme, je veux dire, tout ce que l'État va faire. Je pense que la contrepartie, elle est effectivement de la part de nos constructeurs, qui est un arrêt total de la localisation, voire ce que demande Bruno Le Maire, c'est une relocalisation, relocaliser. Je crois que ça, c'est vraiment le mot d'ordre d'aujourd'hui. Hein.
Relocaliser, et puis il y a aussi l'enjeu de peut-être de la formation vers d'autres métiers, Samuel Klebaner, afin de pouvoir se tourner, afin qu'un certain nombre de travailleurs puissent se tourner vers la voiture électrique, la voiture du futur, mais éventuellement vers d'autres activités. Samuel Klebaner.
Oui, alors tout à fait. Bon, faut. Oui, l'État est actionnaire de Renault. Donc à partir de là, normalement, il est censé avoir un rôle d'intervention directe dans les stratégies. Et on a aussi à côté de ça une politique de filière qui est censée justement tirer toute la chaîne de sous-traitance vers un objectif commun avec des mesures, etc. Bon, au final, on voit quand même que les constructeurs aiment bien, quand il le faut, obtenir des mesures de court terme pour sauver l'économie. Et cette accumulation de mesures de court terme, ça ne fait pas une stratégie de long terme. Donc évidemment, si on veut aussi avoir une politique de formation efficace à long terme, il faut que et les constructeurs et l'État se mettent d'accord sur quel sera du coup le véhicule du futur, quels seront donc les besoins, et que à la fois les constructeurs, les pouvoirs publics, territoriaux, etc., prennent leur part dans la formation, mais aussi, évidemment, à repenser les métiers, à repenser les salaires. On entend souvent que les salariés français dans l'automobile coûtent trop cher. Quand on compare les salaires allemands et les salaires français, on est quand même à des niveaux très différents.
Et puis on s'inscrit effectivement dans un...
Les ingénieurs allemands sont quasiment deux fois mieux payés.
On s'inscrit dans un marché mondial où la concurrence est de plus en plus rude. Le grand leader du marché du véhicule électrique aujourd'hui, c'est l'américain Tesla. Écoutez son porte-parole, Ricardo Reyes.
Ce que nous faisons depuis le début, c'est de faire la compétition au pétrole dans le monde et de combattre ce marché. Que les grands noms de l'industrie automobile allemande déclarent « l'électrique, c'est le futur » et s'engagent publiquement dans ce domaine, c'est une grande victoire pour nous. Nous sommes très fiers que les Allemands déclarent « l'électrique est le futur » et Tesla est en avance.
Tesla est en avance, déclarait donc son porte-parole en 2015. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, Bernard Julien, même si on remarque que la Chine avance ses pions.
Oui, alors bon, le jugement sur Tesla est toujours très difficile à rendre parce qu'il y a quand même une comptabilité très particulière. On a affaire à une entreprise qui a perdu beaucoup d'argent et qui, un trimestre sur deux, encore en perd. Donc il y a quand même une évaluation du dossier qui est très difficile à rendre. Et accessoirement, sur le cœur de la voiture électrique, qui est la partie accumulation d'énergie, etc. Pour l'instant, ils n'étaient pas autonomes. Hein. Il faut rappeler que c'est avec Panasonic, l'industriel japonais de la batterie, qui font leurs véhicules aujourd'hui. Donc l'avance dont ils se prévalent, elle est très 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 médiatique. Elle est sur le plan industriel et technologique un peu moins patente, quoi. Mmh. Hein, ce qui veut dire que les grands constructeurs mondiaux, même s'ils dégainent un peu tard, risque d'être assez rapidement en position de cantonner l'initiative Tesla assez largement, quoi.
Sachant donc, que des moyens colossaux sont mis, des investissements importants, notamment du côté de la Chine, qui veut véritablement monter en puissance sur le marché de la voiture électrique, Daniel Attias.
Oui, tout à fait. Ce que je trouve aussi intéressant pour l'histoire de Tesla, c'est que ça a créé finalement une polémique, des discussions, des remises en question, des positionnements de tous les constructeurs du monde. Parce qu'en 2015, c'est une irruption incroyable, je veux dire, d'une technologie, d'une voiture qui n'est plus vraiment une voiture, qui est une espèce d'ordinateur de bord. Alors, ce qui est vrai dans la question que vous posez sur la Chine, c'est que la Chine qui finalement reprend une croissance un peu insolente par rapport à nous, parce qu'on est quand même à 90% de la reprise là-bas, met des moyens considérables. Alors, j'ai pas les derniers chiffres tout à fait précis, mais sur les véhicules électriques. Et avec l'autorité chinoise, qui fait que je vous donne un exemple, sur le campus de Beiyang, où Central Pékin est présent en Chine, donc au nord de la Chine, à Pékin même, du jour au lendemain, vous pouvez revenir sur ce grand quartier, cette immense université. Toutes les voitures sont électriques. Il n'y a aucune motorisation autre que l'électrique qui n'est permise. Alors, on a aussi ça, c'est-à-dire que les phénomènes d'accélération en Chine ne seront sûrement pas les mêmes que chez nous, parce qu'on a aussi une autorité gouvernementale qui met en place des mesures drastiques et qui les applique.
Et notamment des quotas de vente de véhicules électriques qui ont été mis en place par le gouvernement
chinois.
Exactement. Alors, à l'origine, le premier constructeur de voitures électriques chinois, BYD, était un fabricant de batteries électriques. Il s'agit là d'un enjeu central, Samuel Klebaner. Qui fabriquera demain les batteries électriques à l'heure où le marché est encore dominé par l'Asie?
Tout à fait. Le plan Made in China 2025 a bien, on va dire, remis les choses en place dans la mondialisation. Hein. L'économie chinoise n'est pas une économie en recul, c'est une économie qui est très avancée, avec énormément de technologies et une avance technologique sur de très nombreux domaines. Pour les constructeurs, ça a pour conséquence d'aller en effet, comme on l'a dit, envoyer des équipes d'ingénieurs de conception en Chine, parce que c'est là-bas où il y a énormément de technologies, donc il y a un déplacement déjà de la conception et de la R&D. Mais aussi la question de la fabrication des normes au niveau mondial, puisque la Chine a beaucoup de connaissances accumulées sur la fabrication et l'usage des batteries, et seront tout à fait capables de normaliser ces connaissances et ces compétences au niveau international, via les normes ISO, etc. Ce qui veut dire que les constructeurs qui n'auront pas pris ce virage-là vont être contraints, en gros, de fabriquer comme l'industrie chinoise.
Et d'où le fait que Bruxelles veut créer un Airbus des batteries et porter la part de marché européenne à 25% à la fin de la décennie. Alors il y a encore du chemin à faire pour y parvenir. On arrive à la fin de cette discussion. Un tout dernier mot, peut-être très rapidement, Bernard Julien, sur les grands défis qui attendent aujourd'hui l'industrie automobile et sur la place des constructeurs français dans ce grand marché.
Oui, moi je crois qu'effectivement les termes du questionnement que nous avions à la fin sont les bons. Hein. On a une offensive chinoise très concertée, avec une politique ferme, centrale, qui donne de la visibilité à chacun et qui rend le paysage chinois extrêmement séduisant, y compris pour Renault, y compris pour Volkswagen, etc. Donc le problème aujourd'hui, puisque nous avions mis la charrue avant les bœufs, c'est de remettre tout cela en ordre. Alors c'est pas désespéré parce que on en est qu'au début. Hein, et on voit très bien que les capacités de production sont en train de s'installer, que les technologies de la batterie du futur ne sont pas élaborées, et par conséquent, la pente sur laquelle nous sommes mal engagés est susceptible d'être remontée. Mais ça exige une mobilisation qui, pour l'heure, me paraît assez largement sous-estimé en France comme en Europe, étant donné la concurrence qui est en face.
Le retard peut encore être rattrapé, on vous a compris. Un grand merci à tous les trois, Bernard Julien, Daniel Attia, Samuel Klebaner, de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante émission. Émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Demain, comment la science économique nous permet-elle de penser la pauvreté? La croissance permet-elle vraiment d'éradiquer la misère? On en parle demain à 14h. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.